Et il est 18h30 sur RFI et c'est l'heure du débat avec vous, Nemo Ampis.
Merci bonsoir, Véronique Rigolet, bonsoir. On vous retrouve tout à l'heure, juste après la prise de parole d'Emmanuel Macron, le président français qui s'exprima à 20h, heure de Paris.
Le débat du jour, Nemo Ampis.
Jamais un Premier ministre n'aura tenu aussi peu de temps à Matignon dans l'histoire de la 5e République française. 3 mois après sa nomination, le gouvernement de Michel Barnier est donc tombé à la suite d'une motion de censure déposée par le nouveau Front Populaire, votée entre autres par le Rassemblement National à un FP. Désormais face à une nouvelle épreuve, celle de l'après. Va-t-il tenir? La belle histoire des dernières législatives va-t-elle toucher à sa fin? Comment s'entendre face à tant de dissensions? C'est le débat du soir sur RFI, bienvenue. Et ce jeudi, on donne la parole à 2 observateurs de la gauche française avec nous en studio. Adrien Boroche, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes responsable des études politiques à l'Institut Via Voice, auteur du livre « Portrait moderne de la gauche française à nos jours, débat d'idées des années 2010 à nos jours » à paraître aux éditions de l'Aube en début d'année prochaine. En ligne avec nous, Philippe Moreau-Chevrolet, bonsoir. Philippe Moreau-Chevrolet, vous êtes là ? Bon, hein, on a un petit problème technique, on va le retrouver dans quelques instants en studio. Également avec nous, l'appui et l'œil d'Aurélien Devernois du service politique de RFI. Bonsoir Aurélien.
Bonsoir Nemo, bonsoir à tous.
Et on a retrouvé Philippe Moreau-Chevrolet. Bonsoir Philippe.
Bonsoir, désolé.
Professeur de communication politique à Sciences Po et président de MCBG Conseil. Messieurs, Emmanuel Macron va donc s'adresser aux Français à 20h, heure de Paris. Le président a pris acte de la démission de Michel Barnier. Il s'est ensuite entretenu avec Yaël Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale, Gérard Larcher, président du Sénat. Très peu de choses ont fuité de ces entretiens. Et on a bien compris qu'Emmanuel Macron ne voulait pas se tourner vers la gauche lors de l'épisode estival. Peut-il, Adrien Broche, je me tourne vers vous, être amené à changer d'avis après la chute du gouvernement Barnier? Je précise qu'on a appris il y a quelques minutes que le nom du prochain Premier ministre ne serait pas annoncé ce soir par le chef de l'État.
Est-ce qu'il peut se tourner vers elle? Peut-être, ça dépend, j'allais dire aussi beaucoup de quelle gauche on parle. Visiblement, la perspective d'une nomination d'un membre issu directement du NFP est quasiment écartée. Donc ensuite, effectivement, on verra si c'est plutôt la proposition qui a été celle des socialistes aujourd'hui, d'une personnalité issue de la gauche, qui pourrait effectivement se rapprocher plutôt du centre-gauche, d'une personnalité social-démocrate compatible aussi avec la minorité ensemble qui puisse être nommée. Peut-être que l'information simplement là, qui vient de tomber sur la non-nomination d'un Premier ministre dès ce soir peut laisser entendre que les choses sont un petit peu en train de s'ouvrir. Si jamais une nomination ce soir avait été annoncée, il eût été fort probable qu'elle aurait plutôt été du côté d'une reconduction de la configuration d'alliance qu'on a connue ces 3 derniers mois. C'est tout ce que je pense on peut à peu près conclure de ce qui vient de tomber. Après, peut-être un mot simplement sur la gauche. Effectivement, il y a un moment qui se joue, je dirais aujourd'hui, comme il y en a eu un certain nombre depuis 2022 et la formation d'abord de la NUPES, sur notamment le rapport, cette fois une question beaucoup plus classique à gauche, qui est entre la responsabilité du gouvernement et puis plutôt une forme de contestation qui était une forme de clivage évidemment qui continuait d'exister mais qui avait un petit peu disparu ces dernières années et qui est en train de ressurgir ces quelques jours. On verra effectivement vers où ça nous mène.
Aurélien Devernois, Emmanuel Macron aurait-il des intérêts à se tourner vers la gauche pour la composition de ce gouvernement et la nomination d'un ou d'une première ministre?
En tout cas, ce que dit le camp présidentiel depuis des jours déjà, c'est que pour éviter que le prochain gouvernement ne tombe trop vite, il faut aux socialistes revenir à la raison et donner un accord de non-censure. Sauf qu'évidemment, pour les socialistes, ça ne suffit pas. Et en fait, je pense que le mot central qui doit être entendu depuis hier et qui, à mon avis, sonne aux oreilles d'Emmanuel Macron, c'est le mot de compromis. Aujourd'hui, que ce soit les socialistes, les communistes, les écologistes, tout le monde a plus ou moins tendu la main en disant « Nous, on serait prêts à discuter avec le camp présidentiel sur la base d'un programme minimal commun, certes plutôt en formant un gouvernement de notre sensibilité, mais on n'est pas fermé au compromis. » Et quelque part, c'est renvoyer à Emmanuel Macron le fait que, pour l'instant, le chef de l'État et ses troupes n'ont fait aucun compromis en direction de la gauche. Il n'y a eu aucun compromis depuis la dissolution. Il n'y a eu globalement aucune discussion même. Ça a été très clair quasiment dès le départ. Pour autant, il y a quand même des discussions, on va dire, dans la coulisse, notamment entre le MoDem et le Parti Socialiste et les écologistes. Il y a eu des rencontres ces derniers jours à plusieurs reprises pour voir sur quel type, on va dire, d'accord, encore une fois, programmatique, il pourrait s'accorder, et ensuite voir comment éventuellement former un gouvernement avec ou non des membres du camp présidentiel.
Philippe Moreau-Chevrollet, pensez-vous également que ce nouveau Front populaire, s'il veut survivre en tout cas, doit s'ouvrir à des formes de compromis ?
Oui, alors c'est une évidence que le nouveau Front populaire, s'il veut continuer à incarner une opposition crédible, a intérêt quand même à être constructif. Donc on ne peut pas juste se contenter d'être le premier parti d'opposition aux yeux des Français, hein, ce qui est devenu le cas aujourd'hui. Il faut être aussi dans la capacité de montrer qu'on peut un jour exercer le gouvernement, exercer le pouvoir. Donc il y a un enjeu d'image qui est important pour le NFP. Mais le problème en l'occurrence, c'est qu'effectivement, comme on l'a dit, il faut être deux pour négocier. Et pour l'instant, l'attitude constante de l'exécutif depuis le début quasiment, c'est d'assimiler toutes les composantes du NFP à LFI, de répéter ce qui a été le cas de Michel Barnier en début de semaine sur TF1 et France 2, qu'il s'agit de l'extrême gauche. Il a employé le terme à dessein plusieurs fois pour éviter finalement de dialoguer avec la gauche. Alors qu'on pourrait très bien imaginer, si on a un gouvernement technique, si on a un gouvernement, disons, centré sur la question budgétaire, par exemple, d'avoir une coalition des gens raisonnables du Parlement qui pourrait peut-être aider, faire pression sur les éléments les plus extrêmes, à aider à sortir une coalition de gouvernement.
Ce NFP, on en a eu une image plutôt unie pour faire tomber le gouvernement, mais réussira-t-il à s'entendre sur l'après ? On le sait, on le dit depuis tout à l'heure, Adrien Broche, les divisions et les désaccords sont profonds, notamment entre Insoumis et le reste du groupe.
Oui, alors il y a des désaccords de fond sur un certain nombre de sujets, le rapport à la liberté, le rapport à la responsabilité individuelle, le rapport à la laïcité, bon, tous ces désaccords de fond qu'on connaît bien et qui se sont particulièrement manifestés au tournant des années 2015-2016, et puis des désaccords plus de manière de faire et aussi de viser à très court terme. C'est-à-dire que la France Insoumise et Jean-Luc Mélenchon ont pour objectif principal l'élection présidentielle, là où le Parti Socialiste peut-être. Alors, ils sont dans une situation évidemment très, très compliquée. Il y a d'un côté une forme de fidélité à une histoire de la gauche de gouvernement qui est plutôt du côté du Parti Socialiste et d'une certaine partie du Parti Socialiste, parce qu'il y a toujours aussi eu des divisions là-dessus au sein même de la famille socialiste. Et puis, une fidélité, mais qui est une fidélité de raison, en tout cas à court terme, électorale au sens premier du terme vis-à-vis de la France Insoumise.
On a bien compris, l'objectif de la France Insoumise, c'est clairement de chercher la démission d'Emmanuel Macron et d'obtenir une présidentielle anticipée. Est-ce que ce n'est pas risqué à ce moment-là de la vie politique française avec un rassemblement national qui...
Si, bien sûr. C'est un autre sujet, mais effectivement, je, à titre personnel, je pense que c'est risqué. Je pense que c'est un pari extrêmement risqué. Je pense que dans les côte de désapprobation dans l'opinion, Jean-Luc Mélenchon ne se porte pas mieux que Marine Le Pen, et qu'il y a fort à parier que sur une opposition présidentielle anticipée où figure Jean-Luc Mélenchon, les choses pourraient tourner en sa défaveur. Donc c'est effectivement un pari qui me semble très risqué, qui est encore autre chose, un autre sujet que celui des divisions à gauche. Encore une fois, juste pour terminer là-dessus, puisque le Parti Socialiste est en même temps tenu à une perspective électorale que sont les législatives potentiellement anticipées, où les circonscriptions qui sont celles du Parti Socialiste sont des circonscriptions beaucoup plus compliquées que celles de l'AFI. Et puis pour les élections municipales aussi, où le risque de perdre des villes quatre candidatures multiples pour les socialistes serait quasiment mortifère.
Philippe Moreau-Chevrollet, cette présidentielle anticipée, en tout cas potentiellement, résoudrait-elle les problèmes, sachant que le Parlement ne pourra pas être renouvelé avant juillet prochain, soit un an après les dernières législatives ?
Je pense que ce débat sur la présidentielle anticipée, il indique une chose, c'est que ça fait très longtemps qu'on a perdu l'habitude de laisser jouer le Parlement et de faire du parlementarisme. Tous nos voisins, absolument tous nos voisins, connaissent des épisodes comme ça et le vivent pas forcément excellemment bien, mais ils le vivent. Et ils arrivent à trouver des coalitions de gouvernement, ils arrivent à faire tourner la machine sans avoir besoin d'un miracle vertical, donc d'un nouveau président, d'une dissolution, etc.
Ces pays voisins pour qui la France a longtemps été un exemple.
Alors, un exemple, pas forcément, parce qu'ils ont une culture démocratique différente de la nôtre, et peu de nos voisins envient un système semi-présidentiel comme le nôtre, avec quand même des grosses tendances monarchiques, sans monarque.
Aurélien de Vernois.
Oui, c'est tout... entre guillemets, le problème qui se pose à l'heure actuelle où on a une tripartition du Parlement en France, et que quand même le chef d'une de ces parties est à l'Élysée. Et donc, quelque part, ça paralyse tout, puisque on peut pas avoir... Il y a un des chefs, on va dire, d'une des trois parties qui n'est pas dans le Parlement et qui a un poids démesuré sur la vie politique du pays. Donc, quelque part, ça empêche les accords, justement, qu'on pourrait connaître comme... en Espagne ou en Allemagne, c'est ça qui, quelque part, dans cette configuration politique-là, trouble le jeu. Mais pour autant, pour revenir au NFP, et c'est un petit peu le même souci, quelque part, parce que le NFP a différentes composantes. Et pour, quelque part, s'entendre se sauver les uns les autres, ils ont quand même besoin de rester unis. Ou en tout cas, s'ils doivent se désunir, il faut que l'acte de désunion vienne d'un des chefs. Or, aujourd'hui, ni le Parti communiste, ni les écologistes, ni le PS ne veulent assumer une rupture avec la France insoumise. Donc la seule solution qu'ils ont aujourd'hui, c'est que ça soit la France insoumise qui rompe avec eux. Et c'est aussi pour ça que ces dernières heures, ces derniers jours, ils ont commencé à faire entendre cette musique du compromis avec Emmanuel Macron, etc., pour quelque part se libérer de cette tutelle insoumise et peut-être pouvoir recréer quelque chose... on va dire en dehors du NFP. Le seul souci, c'est que pour l'instant, et là encore on revient à Emmanuel Macron et au camp macroniste, le camp macroniste ne veut parler qu'aux socialistes. Et ça, c'est une erreur, je pense, stratégique. Il vaudrait mieux qu'ils arrêtent d'émettre des oukases envers les écologistes qui considèrent trop inféodés aux insoumis, les communistes, le péril rouge, etc. Il ferait mieux d'essayer de les prendre les trois ensemble pour essayer de jouer justement cette division du NFP. Pour l'instant, c'est là, en fait, il y a des problèmes stratégiques partout qui font que pour la gauche, c'est très compliqué de trouver une solution qui soit viable pour une participation au gouvernement.
Autre fort désaccord marqué à gauche, on en parle de plus en plus, vous en avez parlé, Aurélien de Vernois, d'un accord de non-censure en prévision d'un nouveau gouvernement. Un tel scénario est-il envisageable? On sait, là encore, que la France insoumise rejette cette idée. Adrien Broche.
Oh, c'est très difficile de savoir, encore une fois, et je pense que les pronostics sont assez, assez hasardeux. Est-ce qu'un accord de non-censure est une idée que je trouve... qui me semble pertinente. En tout cas, ce que Boris Vallot a présenté il y a quelques jours récemment, qui me semble être à la fois en adéquation avec la situation politique du Parlement en France et à la fois en adéquation aussi avec ce que le Parti Socialiste pourrait proposer en étant fidèle à son identité politique. Maintenant, effectivement, la situation à gauche est telle, et encore une fois, je crois que la situation électorale de ralliement du Parti Socialiste vis-à-vis de la France Insoumise est très très compliqué et en tout cas à court terme une rupture du Parti Socialiste vis-à-vis de la France Insoumise serait mortifère pour le Parti Socialiste. Donc en fait c'est un pari à moyen voire à long terme de reconstitution d'une force politique, il faudra voir aussi comment ça évolue au centre, une force politique de centre-gauche, de gauche du gouvernement qui soit libérée du LFI, mais on est dans un âge politique à gauche qui est celui de la domination par la radicalité, puisque Jean-Luc Mélenchon a fait 22% à l'élection présidentielle, ce qui est 20 fois le score d'Anne Hidalgo. Donc, j'allais dire arithmétiquement, mais en raison même, quoi qu'on pense de la position LFI, le destin du PS est lié à celui de LFI.
Et je rappelle ce qu'a proposé Boris Vallaud, vous en parliez, le chef du groupe socialiste à l'Assemblée nationale, une négociation avec tous les groupes de l'arc républicain, des insoumis jusqu'aux républicains. Philippe Moreau-Chevrollier, existe-t-il finalement une solution consensuelle au sein du nouveau Front populaire où la France insoumise, là encore, va être contre cette idée?
Alors, ça dépend beaucoup de ce qui est discuté, mais on est quand même parvenu, au sein de la gauche, à une candidature commune qui est celle de Lucie Castet. Donc, il y a quand même des possibilités d'accord qui sont trouvables. Moi, je n'y crois pas beaucoup à titre personnel. Normalement, je crois beaucoup au fait qu'on puisse composer une majorité de gouvernement, ou en tout cas un système de gouvernement, une coalition entre les gens raisonnables au Parlement. Après, la différence, effectivement, avec un système purement parlementaire, c'est que tout est centralisé autour de la présidentielle. Donc, c'est vrai que ça perturbe beaucoup le jeu, dans le sens où il faut qu'Emmanuel Macron veuille bien que ça arrive. La tentative ratée d'alliance avec le RN devrait boucher théoriquement cette voie-là. Donc, il ne laisse pas beaucoup d'alternatives au président de la République. Il n'y a pratiquement plus que deux choix, qui est soit une coalition des gens raisonnables, incluant une partie de la gauche, si ce n'est pas la totalité, ou un gouvernement purement technique, en espérant qu'on arrive à trouver un chemin entre les différents appétits présidentiels.
Alors, il y a plusieurs noms qui circulent depuis quelques heures. On pense à François Bayrou, à François Baroin. Le nom de Bernard Cazeneuve circule beaucoup aussi. Lui, qui s'est dit prêt, non pas par envie, mais plutôt par sacrifice. La France insoumise et les écologistes, notamment, ils sont totalement opposés. Olivier Faure, pour les socialistes, dit qu'il n'en veut pas non plus. Aurélien, est-ce qu'une telle nomination pourrait mener à une sorte d'implosion du nouveau Front populaire?
Alors, je ne suis pas sûr que Bernard Cazeneuve y aille vraiment par sacrifice, hein, parce que l'hubris des politiques...
C'est ce qu'il a dit.
Oui, non, certes, mais bon. Non, mais après, le problème de Bernard Cazeneuve qui a eu quand son nom est sorti cet été, c'est que Bernard Cazeneuve ne voulait pas s'engager sur le programme du nouveau Front populaire, et notamment sur la question des retraites, où il nous a dit, d'ailleurs, nous, journalistes politiques, très clairement, moi, je ne me suis pas engagé là-dessus, quoi. Donc ça, c'est un peu un des principaux marqueurs du programme de NFP. Donc, quelque part, pour que Bernard Cazeneuve puisse être une candidature acceptable, ne serait-ce que par le Parti socialiste, enfin, en tout cas, sa totalité, il faudrait qu'il donne, quelque part, des gages de bonne volonté en direction du PS, mais aussi en direction des écologistes et des communistes. Les insoumis, on va les laisser de côté, parce que de toute façon, Cazeneuve, ce n'est pas une option pour eux.
Je rappelle qu'il n'a pas soutenu Raphaël Glucksmann lors des élections européennes.
Oui, enfin, surtout, il n'a pas soutenu le NFP. Il s'est inscrit en faux sur le principe même de l'alliance avec les insoumis. Donc voilà, c'est encore une fois, je pense que le périmètre qui se discute aujourd'hui, c'est le périmètre de la gauche et avec les insoumis à côté. Et la question, c'est, une personnalité comme Bernard Cazeneuve pourrait convenir, peut-être même avec un Emmanuel Macron dont on dit qu'il s'entend plutôt bien avec lui, jusqu'à ce que, j'imagine, il devienne Premier ministre et que là, ça devienne compliqué. Mais en tout cas, ça pourrait fonctionner, mais ça ne fonctionnerait qu'avec un gouvernement totalement de gauche. Parce que si vous commencez à faire rentrer des personnalités macronistes dans ce gouvernement... Pour le PS et pour les écologistes, il n'y a plus aucun intérêt. C'est ce que disait Adrien Broche tout à l'heure. Il y a des échéances électorales qui arrivent. Si vous commencez à être assimilé finalement avec le pouvoir en place depuis 7 ans, ça devient délicat. En revanche, s'il y a un très gros compromis du côté de l'Élysée qui dit « Bon, écoutez, formez votre gouvernement, on fait un accord de non-censure, mais c'est nous qui nous engageons sur la non-censure et pas l'inverse, c'est les socialistes qui devraient s'engager », là, peut-être que ça peut marcher. En plus, ça embêterait beaucoup les insoumis, parce que si ce gouvernement fonctionnait, ça affaiblirait la France insoumise.
Pour les prochaines élections. Est-ce qu'un gouvernement de gauche tiendrait plus longtemps que le gouvernement Barnier? Je rappelle que ça a été le plus éphémère de la Ve République, avec seulement 3 mois. Une petite question, Adrien Broche.
C'est des questions pronostiques qui sont pas évidentes. Est-ce qu'un gouvernement de gauche tiendrait plus longtemps qu'un gouvernement Barnier? Rien ne le dit. C'est difficile à dire aujourd'hui. Ça dépend effectivement. D'abord, si c'est un gouvernement de gauche étiqueté NFP, c'est un gouvernement issu de la gauche qui... En fait, ça dépend des configurations d'alliances aussi. Les unes sont assez différentes des autres. Et je dirais qu'en plus de ça, sur la personnalité Cazeneuve, donc qui serait donc sur cette configuration de personnalité, je dirais au-dessus de la mêlée issue de la gauche, qui permettrait de faire un compromis entre la préférence accordée au NFP à l'occasion des législatives et la fracturation de l'Assemblée parlementaire nationale. Bernard Cazeneuve, c'est le type de personnalité symbole du quinquennat Hollande, dont évidemment les Insoumis essayent de se démarquer, mais dont Olivier Faure, depuis 2017, essaye justement de se démarquer. Et cet étiquetage quinquennat Hollande 2012-2017, dans l'histoire très contemporaine du Parti Socialiste, il est très douloureux. Et tout le travail d'Olivier Faure depuis 7 ans aujourd'hui, c'est justement d'essayer d'arracher cette étiquette, quoi qu'on en pense. C'est tactiquement la carte qu'il essaye de jouer, la carte unioniste qu'il essaye de jouer, par rapport à cet héritage-là. Donc ça rend la chose très compliquée. C'est aussi une forme, je crois, de piège, entre guillemets, politique qui était tendue par le centre et par la majorité au Parti Socialiste cet été. Puisque, effectivement, quoi qu'on en pense sur le fond, Bernard Cazeneuve n'avait pas soutenu le NFP, n'avait pas soutenu, vous le rappeliez, Raphaël Glucksmann aux élections. Donc, ce n'était pas la personnalité naturelle qui était attendue. Et en fait, son nom est sorti tactiquement pour justement mettre en porte-à-faux le Parti Socialiste, qui, de ce point de vue-là, encore une fois, quoi qu'on en pense, a été au final assez irréprochable. C'est-à-dire que la position qui était la position socialiste, c'était « nous avons un candidat ». Bernard Cazeneuve, aussi talentueux et respectable soit-il, n'avait pas soutenu notre mouvement. Il ne peut pas être le candidat. Et on y revient un petit peu avec une configuration, c'est vrai, qui a un petit peu changé néanmoins.
Je rappelle l'état d'esprit des socialistes, résumé d'ailleurs par Olivier Faure, secrétaire général du parti. Le NFP au gouvernement, le Front républicain à l'Assemblée. Est-ce que, Philippe Moreau-Chevrollet, c'est une proposition solide pour offrir à la France un semblant de normalité ?
C'est une configuration qui est possible. On peut de toute façon imaginer à peu près toutes les combinaisons. Ça dépendra au final de ce que LFI acceptera ou non dans cette perspective de recomposition de la gauche, on va dire. Parce que c'est vrai qu'il y a les municipales qui arrivent en 2026 et ça posera problème dans de très nombreuses villes, l'alliance entre LFI et le PS. Et puis, ça posera aussi des problèmes pour 2027, comme on l'a dit. Donc, la question, c'est de pouvoir gérer une idée de front républicain au gouvernement, sachant qu'après, il faudra retourner vers les électeurs avec une alliance qui sera forcément une alliance un peu diminuée ou en tout cas abîmée par cet exercice de pouvoir.
Aurélien de Vernois, Olivier Faure, qui a reconnu des divergences, qui a assumé même des divergences avec les Insoumis.
Oui, mais après, ces divergences, elles sont historiques déjà. Et puis, on les a vues quand même se manifester dès 2022, la formation de la NUPES. Je vous rappelle quand même qu'une première union de la gauche a complètement implosé en vol en un an et demi, on va dire. Le NFP, c'est exactement les mêmes partis, avec les mêmes dirigeants, avec les mêmes représentants.
Alors, va-t-on vers ce même schéma d'une implosion ?
Encore une fois, tout dépend.
Le NFP est-il plus solide que,
non, le NFP,
que la NUPES ?
Non, le NFP n'est pas plus solide, mais il y a plus de députés. Donc ça, déjà, ça lui donne un poids différent au sein de l'Assemblée nationale. Mine de rien, avoir 40 députés de plus, ça joue. Après, encore une fois, il y a les échéances électorales. Et là, on a beaucoup de coups stratégiques qui se jouent. Sortir de l'union par soi-même, c'est très, très compliqué pour les municipales. Parce que Philippe Moreau-Chevrollet disait... C'est pas évident pour le PS d'assumer son union avec LFI pour les municipales, mais l'inverse est vrai aussi. C'est-à-dire que sans les voix de LFI dans certaines villes, ça peut devenir compliqué, voire ça peut faire perdre. Donc c'est toujours délicat et tout le monde se regarde en disant qui c'est qui va faire tomber la tasse le premier, quoi. C'est finalement un jeu de dupes permanent qui fait que là, dans les discussions pour former un gouvernement, même pour former une alliance au Parlement, c'est très très délicat. Aucun ne peut réellement partir tout seul. Et bah, par exemple, les écologistes n'ont absolument pas intérêt à casser la vaisselle avec la France insoumise, aussi en raison des municipales, mais parce que aussi ils n'ont aucune envie de se retrouver dans une alliance avec Gérald Darmanin. C'est avec les macronistes qui les a traités il y a un an d'éco-terroristes. Donc voilà, il y a des questions stratégiques, il y a des questions aussi de fond quand même, des questions politiques et puis des questions d'ego, quoi. Donc ça crée finalement un environnement qui est pas favorable à la mise en place d'accords de ce fameux front républicain.
Adrien Broche, débat touche bientôt à sa fin. Simple question, comment le nouveau Front populaire tient-il encore? Va-t-il tenir face à tant de dissensions? Est-ce dû à la fragilité de ce qu'on a pu appeler le socle commun au sein de l'Assemblée?
Oui, peut-être. Alors, les alliances à gauche, on le cuir solide. C'est une erreur, je crois, tactique d'Emmanuel Macron d'avoir cru l'inverse. Au moment où il a dissous l'Assemblée cet été. On a vu la NUPES, donc née en juin 2022, elle tient bien tout l'hiver social au moment des grandes réformes sur la retraite, au moment où la question sociale est très prépondérante dans le débat public. Il y a évidemment la question du pouvoir d'achat qui est centrale. Il y a une première brèche, on s'en rappelle, au Parlement, quand un député insulte le ministre alors du Travail, Aurélien Saint-Saulve, insultant pendant les débats sur la retraite, avec une première opposition. Les émeutes en juillet sont le théâtre aussi d'une forte opposition sur la responsabilité individuelle, etc., à gauche. Et effectivement, le 7 octobre, évidemment, en 2023. Bon, les choses se réconcilient, les gauches arrivent malgré tout à faire barrage, justement, je pense, dans une logique de contradiction vis-à-vis du pari macronien qui était celui de leur division. Aujourd'hui, et c'est pour ça, et je commençais par là, on retombe sur une configuration conflictuelle plutôt classique à gauche entre la responsabilité gouvernementale et puis la radicalité avec cette élection présidentielle qui est le pari mélenchonien. On verra. Je pense qu'il ne faut pas sous-estimer historiquement la cohérence, ou plutôt, non pas la cohérence, parce qu'il y a beaucoup d'incohérences, mais la coalition des gauches, et d'autant plus dans un moment comme ça où on l'a dit tout au long de ce débat, les enjeux électoraux sont absolument centraux, même si on peut le regretter, évidemment, ce que disait Philippe Moreau-Chevrolet du point de vue de cette coalition des responsables à l'Assemblée nationale.
Philippe Moreau-Chevrolet, justement, une dernière petite question. La gauche régulièrement divisée, mais toujours solide?
Oui, toujours solide, mais après, c'est pas la même gauche. Enfin, il y a une évolution quand même. Pour moi, en tout cas, qui pose un vrai problème, c'est qu'il y a une partie de la gauche, donc qui est LFI, qui obéit maintenant à une logique populiste. Ça veut dire quoi? C'est un mot sur lequel on peut ne pas être d'accord. On va dire que c'est un mot que j'utilise parce que c'est pratique. Mais populiste, ça veut dire que les méthodes qui sont utilisées, de communication, de rassemblement, on va essayer de faire du clientélisme électoral en chauffant à blanc une partie de l'électorat, en utilisant des techniques qui sont un peu trumpistes parfois, voire carrément trumpistes. Ça n'est pas la même culture, finalement, de relation avec les citoyens que la gauche de gouvernement. Et je trouve que le fossé, de ce point de vue-là, s'est énormément creusé par rapport à ce qu'on a connu précédemment dans les générations antérieures entre la gauche et l'extrême gauche. Je trouve qu'il y a presque une différence de nature dans la façon de faire la politique.
Merci Philippe Moreau-Chevrolet, professeur de communication politique à Sciences Po. Je remercie également Adrien Broche pour ce débat. Je rappelle votre livre qui sort en début d'année prochaine, Portrait moderne de la gauche française à nos jours, débat d'idées des années 2010 à nos jours. Merci également à Aurélien Devernois du service politique de Radio France Internationale. 18h58 ici à Paris, dans une grosse demi-heure, le retour de l'actualité africaine, c'est avec vous Sylvie Berruet, bonsoir.
Bonsoir Nemo, bonsoir à tous.
Et à la une d'Afrique Soir.
La libération de deux gendarmes ivoiriens qui étaient détenus au Burkina Faso depuis plus d'un an. Ils sont rentrés au pays le 29 novembre, mais leur libération n'a été annoncée qu'aujourd'hui. L'alerte sanitaire maximale décrétée dans la province du Kwango. Nous sommes en République démocratique du Congo. Une équipe médicale est sur place pour identifier l'origine d'une épidémie. Elle a déjà fait des dizaines de morts en un peu plus d'un mois. Et puis le dossier d'Afrique Soir au Kenya, la polémique autour d'un amendement interdisant aux salariés de la tech de poursuivre en justice leur employeur. Le président du groupe majoritaire au Sénat, qui est à l'origine de ce texte, affirme que cette interdiction permettrait au Kenya d'être plus compétitif dans ce secteur très concurrentiel. Et puis nous terminerons par la sélection musicale.